Quatre petits pâtés de Bénédicte le Guérinel. Ses doigts arthritiques serrés sur la fourchette, il écrasait d'un geste répétitif la chair blanchâtre du poisson contre l'arrondi du bol en pyrex. Lorsqu'il fut satisfait de la texture, il cassa quatre œufs et versa un demi-pot de crème fraîche bien grasse. Il saisit un bocal contenant une mixture rouge dont il heurta légèrement le couvercle contre la faïence du vieil évier ébréché jusqu'à entendre le petit « poc » caractéristique du bocal. Le bocal s'ouvrit alors sans peine et son contenu exhala une odeur à la fois doucereuse et épicée qui mettait l'eau à la bouche. Dans une jarre en grès trapu, le vieux préleva une poignée d'herbes séchées qu'il jeta dans le bol, ajouta un trait de sel la baleine et donna quelques tours de moulin à poivre en bois d'olivier qui trônait en permanence sur la petite table de la cuisine. À l'aide d'une feuille de sopalin, il badigeonna de beurre bien jaune le fond de quatre petits moules et y versa le mélange. En s'ouvrant, la porte du four à bois fit un claquement de portière de grosse voiture américaine que l'homme trouvait rassurant. Sa vieille cuisinière avait beau avoir dépassé le demi-siècle, elle en avait encore sous le capot. Lorsqu'il s'approcha pour déposer les moules sur la grille, les flammes éclairèrent les profonds sillons de son beau visage, telles les cicatrices de l'immense peine qu'il portait en lui. Puis, il alla s'asseoir dans son fauteuil paillé près de la fenêtre. Les yeux dans le vague, il posa les mains sur la toile rêche de son pantalon et attendit. « Tiens, regarde, c'est encore le vieux fou avec son fichti. Viens, on le suit !» Les deux gamins s'élancèrent comme deux chats, lestes et silencieux sur leurs semelles de crêpes. À distance respectable, se cachant derrière les troncs des grands peupliers alignés au cordeau dans le champ, ils avançaient à la suite de l'homme. Ce dernier, chaussé de gros godillots, cheminait lentement, mais son pas était sûr. Depuis des années qu'il parcourait tous les mois le même trajet, il connaissait chaque repli de la terre, chaque ronce sournoise qui aurait pu le faire chuter. De même que lui était familier le doux bruissement de la brise dans les feuillages et le chuintement discret de la boire, comme il l'appelait, ce bras mort qui se noyait dans la Loire. Le bruit de l'herbe foulée derrière lui ne lui avait pas échappé, mais il ne se retourna pas et continua d'avancer au même rythme, déterminé, comme à chaque fois. À l'approche du fleuve, le sol devint plus meuble, le sable se mêlant à l'argile. Les squelettes des salicaires se dressaient en touffe au milieu des herbes hautes. Les minuscules fleurs blanches des corignoles, des grèves brillaient comme une multitude de petits cailloux blancs sous le pâle soleil d'automne. À chaque pas, les joncs fouettaient le velours du pantalon du vieux en un sifflement. L'eau ne se trouvait plus qu'à quelques mètres, et la rive sablonneuse n'était pas un terrain propice pour les arbres. Les deux gamins étaient donc restés en retrait, dissimulés derrière le dernier peuplier du champ, observant le vieil homme. Celui-ci s'arrêta au ras de l'eau et se pencha dans l'herbe jusqu'à disparaître. Lorsqu'il se releva, il tenait entre ses mains un cageot de bois qu'il retourna avant de le reposer sur le sol en guise de table basse. De son cabas en bandoulière, il sortit un torchon à carreaux rouges et blancs qu'il disposa sur la caisse et le caressa méticuleusement du plat de la main afin d'en faire disparaître les faux plis. Puis, il saisit une gamelle dont il déposa le contenu, quatre petits pâtés, sur une assiette de faïence décorée d'une farandole de myosotis. Il observa le résultat de sa table de fortune et après quelques secondes d'hésitation, cueillit quelques fleurs de trèfle dont il parsema les abords de l'assiette afin de parfaire la présentation. Enfin, satisfait, Il hocha la tête, recula de quelques pas et s'assit tant bien que mal sur le sol. Puis il demeura là sans bouger, le regard rivé sur l'onde.
« Bon allez, on se tire de là, hein. Ça fait des plombes qu'il n'a pas bougé le vieux, y a rien à voir, en plus la nuit tombe. »«
Non, attends, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il vient foutre là tous les mois, le cul dans l'herbe figé comme une statue. » »«
Eh ben viens, on va lui demander. »«
Mais t'es fou ?»«
Ben non, si on veut savoir, il n'y a qu'à lui poser la question. Allez, moi j'y vais. »
Le gamin s'avança, mais son copain le retint par la ceinture du pantalon.
« J'ai une idée. On va lui balancer des cailloux, on verra bien s'il réagit. »
En joignant le geste à la parole, il projeta une poignée de petits cailloux ronds en direction du vieil homme, qui atterrirent juste derrière lui.
« Ça suffit, espèce de morveux !»
leur cria-t-il d'une voix rauque sans se retourner.
« Rentrez chez vous !»
Surpris, les deux garçons restèrent quoi ?
« Vous croyez que je vous avais pas vu ?»
reprit le vieux, silence toujours.
« Eh ben allez, montrez-vous si vous êtes des hommes !»
Les gamins, piqués au vif, sortirent de leur cachette et parcoururent la petite vingtaine de mètres qui les séparaient.
« Ben, Maurice, qu'est-ce que vous faites là ? Un petit pique-nique ?»
demanda le plus grand des deux frondeurs. L'homme attendit que les deux jeunes soient face à lui pour répondre.
« Tiens donc, mettez le fils Maisonneuve. Et toi, je te reconnais, t'es le cadet de ce pisse-frotte Bruno.
Je ne vous permets pas.
Et moi, je ne te permets pas non plus de me balancer des cailloux quand je suis là tranquillement à prendre le frais au bord de l'eau, crénom de Dieu. Allez hop, barrez-vous là ou je lâche mon chien. »
« Votre chien ?
Mais quel chien ?
Ben mon chien invisible, pardi. » Et je vous promets qu'il ne fera qu'une bouchée de vos mollets de coq. »
Les gamins le regardèrent avec des yeux ronds comme des soucoupes avant d'éclater de rire.
« Votre chien ? Oh là là, Maurice, vous avez un pet au casque, on dirait. Et pourquoi pas prendre le frais avec votre femme pendant que vous y êtes ? Allez, on vous laisse en famille, on se casse. »
En entendant ces mots, le vieil homme attrapa rageusement un morceau de bois qui traînait à portée de sa main et le lança maladroitement dans leur direction en criant.
« Laissez ma femme tranquille, sacripant. Vous allez voir si elle aussi, elle se met en colère. »«
Votre femme, Maurice ? Mais elle est morte depuis des lustres !»
s'écria le plus petit des deux en le se retournant. « Il serait temps que vous finissiez par l'admettre, espèce de vieux dingo !» Et ils calétèrent comme deux voyales en pleine basse-cour. Toujours assis par terre, le vieil homme lança quelques jurons avant de retomber dans la contemplation mutique de la Loire, face à lui. Il resta ainsi longtemps, résistant tant bien que mal à la fatigue, mais finit par céder au sommeil. Lorsqu'il se réveilla au petit jour, il se leva péniblement, ramassa l'assiette, maintenant vide, et le torchon à carreaux, replaça le cajot dans le bouquet de hautes herbes qui lui servait de cachette, puis quitta la grève, voûté et vacillant sur ses frêles guiboles engourdies par la fraîcheur de la nuit.
Toc, toc ! Entre, Joseph !
Ben, comment tu sais que c'est moi ?
Qui d'autre ça pourrait être ? Et puis de toute façon, chaque lendemain de pleine lune, je sais que tu déboules chez moi des potrons minés.
Ouais, bon, alors ?
Alors quoi ? Tu l'as vu ?
Non, pas cette fois. Je me suis endormie. À mon âge, c'est pas facile de veiller toute la nuit.